Yves Bigot, vous publiez aux éditions Encre de nuit, Catherine, l'histoire d'une jeune Hollandaise, et le roman commence brutalement, si je puis dire, 5 mai 1974, un accident de moto, et finalement ce n'est pas vraiment un accident puisqu'elle est assassinée, tentative de viol, une bête de baseball, et puis sa vie qui défile devant elle, la mort. Et en fait, c'est cette vie qui défile devant elle qu'elle raconte, ou que vous raconter dans ce livre.
Que je lui fais raconter, puisque je pratique la métathèse sexuelle, donc je dis « je », alors que je ne suis pas une jeune fille de 17 ans au cœur des années 60. Avant que ces choses-là ne soient critiquables et qu'on dise qu'un homme n'a pas le droit de parler comme s'il était une femme ou inversement, etc. Vous voyez, l'ancien monde.
L'ancien monde. Alors cet ancien monde, finalement, en ces années 60, qui était quand même un monde exceptionnel, un monde de liberté, dont tout le monde aujourd'hui, tous ceux qui l'ont vécu se souviennent avec bonheur, même si tout n'était pas forcément toujours formidable. Cette jeune fille hollandaise, dont je le disais, elle avait elle aurait dû avoir une vie tout à fait, riche et passionnante. Et finalement, en 1966, tout va s'écrouler. C'est le ciel qui lui tombe sur la tête.
C'est l'arrestation de son père, dont qui est un riche négociant d'Amsterdam, qui découvre que son associé faisait du trafic non seulement d'animaux exotiques, mais également de jeunes filles moluquoises ou surinamiennes, qui mettaient dans les célèbres vitrines du quartier rouge d'Amsterdam, et donc il est inculpé en même temps que son associé.
Alors là, tout bascule, et puis sa mère décide de l'éloigner de tout cet environnement, et l'envoie à Londres c'était un bouillonnement ces années 60, et notamment dans les quartiers londoniens.
Alors le Swinging London, évidemment, c'est le moment où Londres est la capitale du monde, la capitale culturelle en tous les cas du monde. En plus, l'Angleterre vient de gagner la Coupe du Monde dans son stade de Wembley. Donc c'est l'apex de Londres cet été, cette rentrée 1966. C'est le royaume des Beatles, des groupes de rock, de la mode aussi, du cinéma, tout. Tout le monde vient tourner à Londres dans ces années-là, y compris Brigitte Bardot. Londres est vraiment le centre du monde et c'est une époque, évidemment, moi, que j'avais envie de faire vivre et de faire revivre, à la fois parce que je connais très bien la ville de Londres et puis parce que c'est un moment magique dans l'histoire de l'humanité, parce que tout n'était pas rose, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans les années 60, mais ce qui était très différent d'aujourd'hui, c'est que chaque matin, on se réveillait en pensant que ce jour serait meilleur que la veille. Ce qui est un peu ce qui nous manque aujourd'hui, ce qui a complètement disparu et ce qui entraîne sans doute cette dépression un peu générale qui vraiment est à l'opposé exact de l'euphorie des années 60.
Chez cette jeune fille de 16 ans, à la fois du chagrin, à la fois de la peine, à la fois forme de, je dirais, peut-être de résilience, on pourrait dire, mais il y a surtout une énergie qui est extraordinaire.
C'est la vitalité de son âge, vous savez, à cet âge-là, on est optimiste, on croit que le monde des anciens, le monde des parents, le monde hérité de la Deuxième Guerre mondiale et de sa sortie, qui notamment en Angleterre et dans l'Europe du Nord a été très très dur, et on pense qu'on va changer le monde, qu'on va faire le monde de la nouvelle génération, parce que ce qui est particulier, c'est que cette génération-là, elle est sans doute la plus éduquée de l'histoire de l'humanité, d'une part, et d'autre part, elle a un pouvoir d'achat qui lui permet, pour la première fois là aussi dans l'histoire de l'humanité, d'imposer sa culture, la culture de la jeunesse, celle du rock, donc, à l'ensemble de la société.
Alors c'est vrai que cette époque, c'est l'époque, la révolution première, c'est la révolution musicale.
Oui, et avec c'est la liberté. Alors c'est effectivement, vous avez raison, c'est la révolution du rock, c'est la révolution de la musique, c'est la révolution de la jeunesse, c'est la révolution des femmes aussi, parce que c'est leur libération, c'est la libération sexuelle, c'est une époque de liberté, c'est pour ça qu'elle fait qu'elle fait autant rêver, c'est celle de la découverte de la planète, ou en tous les cas de la démocratisation du voyage et donc de la découverte des autres cultures.
Et côté pile et côté face, hein, il y a un côté Janus dans tout ça, c'est aussi l'aspect underground avec la drogue, avec les excès dans tous les sens aussi, auxquels elle va se confronter.
Bien sûr, ben c'est le côté sombre, évidemment, du rêve hippie, hein, et du rêve du Summer of Love de San Francisco, où elle va se retrouver donc, hein, dans ses tribulations après Londres. Elle arrive à San Francisco début 1967, hein, donc là aussi au moment de la période impériale, hein, de San Francisco, qui va durer 3-4 ans, et où évidemment, eh bien, elle va découvrir tous les soubresauts voilà, hein, de la résistance, de la face sombre de l'humanité, hein, ses changements, ses rêves, ses espoirs et cette liberté absolue de sa génération.
Vous faites un petit clin d'œil à un moment à cette fameuse maison bleue adossée à la colline, où quelque part on a l'impression qu'elle se retrouve là aussi parmi toute cette jeunesse.
Techniquement, dans San Francisco, c'est pas du tout dans le même quartier, mais oui, c'est cette idée-là, hein, c'est l'idée de vivre en communauté, tout partager, et surtout que tout le monde soit artiste. Aussi, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire cette histoire, c'est que en France, notamment, on a très très mal documenté, et donc cette période est extrêmement mal perçue. Les hippies ont été réduits un peu, alors d'un côté au festival de Woodstock, ou de l'autre à la caricature, hein, Baba Cool du Collard au chaud, alors que en fait les hippies étaient tous des artistes ou des artisans. C'était des gens qui faisaient quelque chose, qui voulaient fabriquer des choses, qui voulaient voilà, faire que le monde brille, qui étaient des chercheurs d'or un peu aussi, hein, qui cherchaient des pépites culturelles partout sur la planète et aussi dans notre passé.
Catherine, elle va traîner avec les uns, les autres. Ce monde musical, ce monde artistique la fascine, mais elle reste, tout à l'heure vous parliez de féminisme, elle reste quand même très vigilante quant à elle-même, à sa personne. Elle ne se donne pas à n'importe qui, elle ne veut pas sombrer même dans la drogue, dans certaines choses, même si elle veut fréquenter un petit peu et qu'elle s'en approche. Elle veut quand même garder une certaine dignité, si on peut appeler ça comme ça.
Oui, une altérité en tous les cas, puis même une petite distance, c'est-à-dire qu'elle épouse beaucoup plus les idées que les corps, on va dire. Alors, à quoi ça tient? Ça tient sans doute d'une part à son jeune âge, hein, puisque donc quand elle est à San Francisco, elle a tout juste 17 ans. Donc elle est encore très jeune, et puis surtout elle vient d'une famille hollandaise où elle est extrêmement éduquée, une famille riche, hein, où elle a appris à se respecter et à respecter les autres. Et effectivement, elle va être fascinée par cet univers, hein. Elle va découvrir dans les clubs underground de Londres Pink Floyd et Soft Machine avant même qu'ils ne réalisent leurs premiers enregistrements. Quand elle va arriver à San Francisco, elle découvre tous les groupes du San Francisco Sound, Jefferson Airplane, le Grateful Dead, Country Joe and the Fish, Quicksilver, etc., Janis Joplin, juste au moment où eux réalisent leurs premiers enregistrements. Donc vous voyez, c'est ça aussi, moi aussi, qui me passionne dans ce monde et dans la créativité de ce moment-là. Et elle-même est en train de se découvrir, en train d'éclore à ce moment-là. C'est ça, moi, que je trouve toujours fascinant. Les débuts, les commencements, quand on est encore innocent, quand on a encore, voilà, justement, beaucoup d'espoir, même si la vie et les circonstances sont difficiles. C'est toujours des moments que je trouve magiques.
Elle attend une sorte de prince charmant, si l'on peut dire. Elle est amoureuse en secret de Donovan. Elle cherche une sorte, non pas de Dieu, mais quelque part un amour, hein, peut-être un peu impossible.
Elle est amoureuse de l'amour, en fait, hein, comme le sont toutes les chansons pop, hein, de ces années-là, hein, qui sont à la fois des chansons d'amour individuelles et des chansons d'amour collectif. C'est ça aussi qui est assez fascinant, justement, dans cette période. C'est pas un amour égoïste, c'est-à-dire il y a évidemment l'amour de deux personnes, mais aussi cette idée que l'amour, de manière générale, est dans l'air, et évidemment, elle va être sensible à ça. Et puis, évidemment, hein, à 17 ans, hein, une jeune fille des années 60, donc dans des années de liberté, ben, voilà, ces hormones sont en furie.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans.
Non, ça, jamais. Mais même, c'est un peu ce qui est triste, c'est que les jeunes de 17 ans aujourd'hui, on les force à être sérieux, hein. Le monde les force à être sérieux, et c'est terrible.
C'est la question que j'allais vous poser, parce que effectivement, cette période où cette jeunesse proposait un autre monde, hein, proposait de changer, de renverser un petit peu les choses, et je fais le parallèle avec aujourd'hui, où effectivement on a une sorte de carcan qui, en dehors évidemment de cette particularité de la Covid, mais on a cette jeunesse a un carcan autour d'elle aujourd'hui.
Et bien sûr, parce que les années 60, c'est une période de plein emploi aussi. Hein. Donc on peut partir, faire le tour du monde, mais quand on revient, ben, on trouvera toujours un boulot où on en a trouvé un formidable en route, où on peut rentrer chez soi. À l'époque, maintenant, évidemment, c'est quelque chose de tellement plus difficile et où, voilà, on est face à une jeunesse qui n'a pas du tout les perspectives qui étaient celles de ces années-là. C'est une des raisons aussi qui m'a poussé hein, à écrire sur cette période. C'est que de rappeler que le monde n'a pas toujours été comme il est aujourd'hui et qu'il a proposé justement un modèle de société alternative qui, peut-être, s'il avait été un peu plus suivi, ben, ne nous aurait pas conduit dans la situation épouvantable dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Encore une fois, comme cette époque a été très très mal documentée en France, ou caricaturée en France, j'avais très à cœur de raconter sa véritable histoire, voilà, en la faisant vivre ou revivre, en tous les cas par une jeune visiteuse de l'époque.
Voilà, on aurait envie qu'à la fin de ce roman, eh bien, on ait rêvé et que Catherine vienne nous ouvrir une autre porte, peut-être aussi.
Ouais, elle aurait 71 ans aujourd'hui.
Oh, c'est jeune.
C'est très jeune, effectivement, sûrement.
Merci Yves Bigot. Catherine, c'est publié aux éditions Encre de Nuit, qui nous fait revivre à travers cette jeune fille, eh bien, toute l'histoire, on peut dire, une page de notre histoire des années 60 en Europe et puis aux États-Unis. Qui a fait le dessin de ce joli dessin de la couverture ?
Alors, Frédéric Pelletier, qui est un illustrateur qui travaille beaucoup pour la mode et pour le cinéma.
Voilà, très chouette, très sobre et très chouette. Merci
beaucoup.
Merci Yves Bigot.
Merci infiniment à vous.